de Célis.
L'ancienne VD sans enseigne piégée, OG BG, OG BG.
Bruxelles, Bruxelles V, Bruxelles, Bruxelles V.
J'suis pas un gangsta, pas la peine de mentir, j'suis comme toi.
Mais c'est pas moi le boss, j'aimerais être un bonhomme, mais c'est pas moi le boss. J'peux mentir à moi-même, mais c'est pas moi le boss, c'est pas moi le boss.
Et si le rap était tout simplement la littérature d'aujourd'hui? Pour le démontrer, la journaliste Juliette Mita a créé il y a 3 ans le compte Mots Croisés, au pluriel avec un Z. Aujourd'hui, elle démontre dans un livre passionnant les nombreux liens qui rapprochent Joestar de Victor Hugo, Damso de Jean-Paul Sartre. Esthétique, lexique, rythme, rime, fond et forme. Et au final, un fil conducteur, l'amour des mots. Ce livre s'intitule Rap Littérature 2.0. Il fourmille d'exemples entre citation et punchline. Juliette Mita est notre invitée ce matin. Bonjour.
Bonjour, merci beaucoup.
Avec grand plaisir pour nous parler de ce livre absolument passionnant. Je parlais d'amour des mots. Cet amour des mots, c'est d'abord le vôtre.
Oui, tout à fait. C'est vrai que j'ai vraiment grandi en étant toute petite, passionnée par les mots très tôt. Ce que j'aime dire, c'est que j'ai écrit mon premier livre avant de savoir écrire. C'est-à-dire que je l'ai récité à mes parents qui l'ont écrit à ma place. Donc c'est vraiment une passion qui remonte à très très loin finalement. Après, au fur et à mesure, j'ai vraiment découvert les livres dans mon enfance, je lisais beaucoup. Et après, en grandissant, vers on va dire 10-11 ans, j'ai découvert les premiers textes de rap et j'ai été vraiment fascinée par l'idée qu'on pouvait aussi transmettre les mots sous forme orale par de la musique et que c'était vraiment un vecteur beaucoup plus accessible finalement. Et donc vraiment, je m'y suis de plus en plus intéressée et j'ai découvert aussi d'autres formes d'expression en fait dans ces textes de rap qui m'ont très vite parlé et de plus en plus parlé surtout, qui ont vraiment éveillé ma sensibilité sur la vie, sur des causes sociales, politiques, enfin, sur des causes très variées finalement. Et en fait, très tôt, j'ai fait vraiment ce lien entre la littérature qu'on retrouve dans des livres et celle qu'on peut écouter en musique. Et je voyais que c'était pas forcément évident pour tout le monde de faire ce lien. Donc j'ai décidé d'en parler d'abord sur les réseaux sociaux. Puis après, d'en faire
visiblement, ça a bien fonctionné, ça a bien intéressé les gens. Mais c'est vrai, de quoi parle-t-on? On ne fait pas forcément ce lien parce que, et vous démarrez ce livre, et c'est important, par une redéfinition finalement de ce qu'est la littérature, parce qu'on a l'impression qu'on n'a plus forcément en tête la définition réelle de la littérature. On a une image, en fait. L'image littéraire qui est, très classique et avec des auteurs connus, avec quelque chose qui semble très, presque j'allais dire, scientifique, mais en tout cas pas le rap.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que déjà, quand on pense littérature, on pense vraiment immédiatement et spontanément aux livres. Sauf que les livres...
Et même aux livres anciens, d'ailleurs.
Et aux livres anciens, bien sûr. Sauf que ces livres-là se sont un petit peu accaparés et ont figé la littérature seulement à partir de l'invention de l'imprimerie, donc au 15e siècle à peu près. Et avant ça, la littérature, elle se transmettait d'abord par l'oral. Et les mythes anciens, les récits fondateurs, les contes, etc. L'oral faisait partie intégrante, en fait, de cette écriture qui était transmise de bouche à oreille. Et en fait, de ce point de vue-là, le rap ne dénature pas du tout la littérature, il revient vraiment à ses fondements finalement.
C'est de la littérature.
Exactement.
D'après vous, c'est une forme de littérature. Ce qu'on appelle littérature, donc en fait, est lié aussi à une forme de jugement, ce que l'on juge bien dit ou bien écrit. Et là, on est au cœur du problème, évidemment, avec le rap, c'est qu'il y a un jugement sociétal par rapport au rap et à ceux qui le portent.
Exactement. Je pense que déjà, on le sait, le jugement est quelque chose d'extrêmement subjectif. Et quand on parle d'une institution qui est la littérature comme ça, qui est vraiment régie par des codes très classiques et académiques, comme vous l'avez évoqué, on peut vraiment se poser les questions sur les personnes qui vont justement porter ce jugement et qui vont définir ce qu'est ou non littérature. Et effectivement, ne pas vouloir en fait reconnaître le rap et les expressions similaires comme de la littérature, c'est poser non seulement un jugement de valeur, mais je pense également un jugement classiste, de mépris de classe donc, mais également raciste. Et ça, je pense que c'est une vérité sur laquelle beaucoup ferment les yeux encore aujourd'hui.
Et dans cette notion de jugement, il y a aussi celle de sérieux. En fait, la littérature, c'est ce qu'on juge sérieux. Et le rap, alors, si c'est pas forcément ceux qui n'est pas pris au sérieux, c'est ceux de nouveau qui vont l'écrire ou le chanter. Parce qu'ils sont pas, ils n'ont pas, pas forcément l'habit, les codes de ce qu'on imagine.
Ce n'est pas les codes qui sont socialement reconnus, socialement acceptés, etc. Et du coup, forcément, si les codes sont différents, on va avoir tendance directement à leur porter un mépris, plutôt qu'à chercher à comprendre justement des cultures qui diffèrent des nôtres, etc. Et donc oui, il va y avoir systématiquement, enfin immédiatement, un rejet au lieu d'un intérêt pour ce type d'écriture. Et oui, toute cette question des codes, et justement, est-ce qu'on est obligé de se travestir et d'emprunter les codes des autres pour se faire reconnaître en tant qu'écrivain, ou est-ce que c'est impossible aujourd'hui, en 2026, d'imposer ses propres codes?
Alors, on pourrait aussi avoir cette idée qu'il n'y a pas de règles formelles dans le rap. Or, il y a des règles d'écriture tout aussi strictes. Vous parlez notamment de la règle des 16 mesures.
Oui. Oui, c'est vrai que ce qui est étonnant, c'est que on a l'impression que le rap s'émancipe d'une certaine rigueur de la littérature, alors que finalement, il évolue dans un cadre hyper strict. Donc voilà, il y a le 16 mesures, il y a aussi la rime qui reste vraiment au fondement même des textes de rap. Et
c'est assez marrant, parce qu'on se dit, la rime, finalement, c'est une contrainte un peu traditionnelle. Et pourquoi le rap s'est imposé ça?
Et je trouve ça assez marrant, je sais pas, c'est une sorte d'héritage ou de remise en valeur, je sais pas, c'est aussi un truc qui fait partie intégrante de ces codes. Mais du coup, je trouve ça marrant de voir que la littérature et la poésie sont vachement émancipées depuis plus d'un siècle maintenant de la contrainte de la rime, et que le rap y reste très attaché. Et
le rap est réac.
Le rap n'est pas... Non, je pense pas que le rap soit réac. Non. Mais le rap est ancré dans des traditions plus anciennes, finalement.
J'écris ce titre comme une fin de carrière. Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu, puis j'ai fait marche arrière.
Qui défend nos droits? La justice pour toi? La justice nique sa mère. Le dernier juge que j'ai vu avait plus de vis que le dealer de ma rue.
On part de mondialisation, alors que dans nos têtes, on en est encore qu'à colonisation.
Je pense pas à demain, parce que demain, c'est loin.
Alors là, on a entendu, et c'est assez exceptionnel, une femme rappeuse, Diams, mais il a fallu la chercher parce que les filles sont encore très peu nombreuses dans le domaine du rap, notamment parce qu'on sait que c'est un domaine qui est encore réputé très misogyne, avec des paroles, avec des choix de mots qui entraînent forcément peut-être une vision du monde qui est encore assez masculine. Est-ce qu'on voit que ces mots-là évoluent et qu'en parallèle, l'accès des femmes à ce milieu évolue aussi?
Bah, d'abord, ce que je voudrais souligner, c'est en fait la manière dont on a facilement tendance à pointer du doigt le rap comme étant un milieu misogyne et sexiste, alors que finalement, je pense que l'intégralité des champs de la société, et notamment des champs culturels, que ça soit le cinéma, le théâtre, les autres genres musicaux, sont également extrêmement sexistes et pleins de préjugés. J'ai pris l'exemple récemment des dessins animés, notamment de Sig et Morty, j'ai plus le nom. Bon, un dessin animé où il y a un requin et un chien qui doivent ou courtiser ou manger une sirène. Et la dernière fois, je suis tombée sur ce dessin animé, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est misogyne? Et pourtant, les enfants regardent encore ça en 2026 et on ne le pointe pas du doigt. Bon, petit aparté pour dire que les rappeurs sont facilement des boucs émissaires qu'on aime bien critiquer sur ce sujet-là. Alors, je pense qu'effectivement, il y a des choses à revoir, mais pas non plus une espèce de stigmatisation à faire là-dessus. Maintenant qu'on a dit ça, effectivement, il faut s'intéresser sur la place des femmes que les femmes occupent dans le rap, et la manière dont, effectivement, je pense que chacun collectivement, chacun et chacune, on doit aussi faire cet effort d'écouter et d'avoir cette curiosité vers des artistes féminines qui vont avoir des codes qui diffèrent un petit peu des artistes masculins, mais dans lesquels, en fait, on va aussi se reconnaître, on va apprécier vraiment leur propre singularité, qui vont arriver avec des codes donc ou féminins ou au contraire qui vont vachement casser les codes et les attentes qu'on peut avoir d'une femme qui fait du rap, que ça soit un côté très garçon manqué entre guillemets, ou à l'inverse un côté très féminin et bad bitch. Et je pense qu'aujourd'hui on a de plus en plus d'artistes qui prennent cette place et qui l'occupent, et je pense que dans les années à venir ça va de plus en plus se développer, en tout cas je le souhaite. Et pour citer quelques artistes, voilà, je pense qu'on a Shai qui a vraiment brillé ces 10 dernières années, un peu plus récemment on a Davignor, et là encore récemment je dirais qu'il y a Josh Shani qui est en train de percer sur les réseaux et qui fait vraiment un travail remarquable et formidable.
Alors il y aurait encore beaucoup de questions, mais le temps passe vite parce que ça nous rapproche à pas mal de choses qu'on connaît, qu'on lit, qu'on écoute sans forcément faire attention. Donc je vous invite vraiment à lire ce livre qui est absolument passionnant. Mais pour terminer, peut-être Juliette Mita, nous dire qu'est-ce que vous trouvez beau, vous, dans les mots du rap?
Ce que je trouve beau, c'est vraiment leur manière de refléter le réel de manière à la fois brute et crue. C'est-à-dire que c'est vraiment une fenêtre sur un monde qui est vachement occulté dans les autres champs culturels. C'est une porte d'entrée directe où des personnes se racontent eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on n'est plus seulement sur une littérature qui va traiter de la banlieue et qui va essayer de poser un regard un peu bourgeois sur une réalité sociale. Mais on est sur des personnes qui se racontent à la première personne, qui racontent des vécus qu'ils partagent. Ces personnes-là, elles vont trouver des échos dans des personnes qui se reconnaissent. Et elles vont trouver aussi des endroits où elles vont être entendues par d'autres personnes qui vivent dans des réalités un petit peu plus éloignées. Et finalement, je pense que c'est un peu tout ce lien qui est créé à travers les mots qui est beau. Et voilà, je trouve ça beau qu'on soit tous soudés par l'amour des mots.
Si seulement. Ça s'appelle Rap Littérature 2.0. C'est signé Juliette Mita. C'est publié chez Le Duc. Merci beaucoup, Juliette Mita, d'avoir été notre invitée.
Merci à vous.
Et oui, le rap comme vous ne l'entendrez plus jamais de la même façon désormais, parce qu'on est tous liés par l'amour des mots. Et oui, c'est le cas aussi sur la première. Dans un instant, ce seront les bonnes colonnes avec Aline Gonsalves qui hier, rappelez-vous, nous a emmené au Japon. Si vous n'avez pas entendu la chronique, allez la réécouter sur Ovio ou en podcast. Cap aujourd'hui sur la Hongrie, où le nouveau Premier ministre Peter Mayer veut faire table rase de l'héritage laissé par son prédécesseur Viktor Orban. Il veut y aller vite et fort. La méthode est musclée lors des règlements de compte a sonné visiblement en Hongrie. Ce sera donc dans les bonnes colonnes et ce sera juste après le rappel des titres de 9h30 avec Mélanie Joris.